Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui animée par Valère Marie Marchand. Alors il s'agit d'une émission enregistrée, je remercie très chaleureusement d'ailleurs Xavier Lecomte qui en a réalisé le montage, ainsi que Flo Descailloux qui est aujourd'hui en régie pour lancer l'émission. Notre invité est Didier Blonde, il vient de publier Carnet d'adresses aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. Pour tout vous dire, bon, il est question d'un jeu de cache-cache entre réalité et fiction, ou plus exactement d'adresses plus ou moins fictives de personnages de romans. Je vous souhaite donc de passer de très bons moments du côté d'Arsène Lupin, du commissaire Maigret ou de Nestor Burma. Didier Blonde, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler de votre nouveau livre qui s'appelle Carnet d'adresses et de quelques personnages fictifs de la littérature. Ça vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. C'est une. D'abord, je vois en couverture une photo de Brassailles. Je crois que c'est la librairie de la Lune. Je me trompe peut-être. Non. Mais c'est une. C'est un clin d'œil à un certain Paris, Didier Blonde. Ce livre qui est en partie une réédition.
Oui, alors en partie une réédition, puisque ça reprend. Enfin, c'est le carnet d'adresses que j'avais publié dans la collection L'un et l'autre, dirigé par Pontalis, en 2010. Et parallèlement, le répertoire des domiciles parisiens que j'avais publié aux éditions La Pionnière, qui est un petit éditeur de qualité. Mais au départ, c'était un projet d'un unique livre, et pour des raisons qui seraient inutiles de rappeler, d'expliquer, ça a donné deux livres, en fait. Hein. Un, donc, que j'ai repris, qui est une sorte de, maintenant, de préface, qui est un peu l'histoire de ma découverte, mon intérêt, mon parcours personnel à travers ces adresses, et puis une sorte de petit essai, hein, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, et la deuxième partie qui est donc véritablement une sorte de bottin, d'annuaire détaillé avec, je ne sais pas compter, mais environ 200 ou 250 personnages de la littérature qui ont vécu à Paris, voilà. Et donc il y a des systèmes un petit peu d'aller-retour entre ces deux parties, et j'ai pu, là, et j'en suis très heureux, pouvoir donc réaliser cette idée que j'avais eue au départ et qui n'avait pas pu se faire. Donc là, c'est le carnet d'adresses, voilà, qui est tel que je l'avais rêvé.
Alors c'est un livre, c'est vrai, il y a deux livres en un, on va dire, hein, mais il est dédié à Gérard Massé, je suppose que c'est pas un hasard, et à Jean Le Gac. Alors Jean Le Gac, je pense particulièrement à Jean Le Gac puisqu'il a un studio, que c'est un homme qui est un artiste peintre, qui est très attaché à l'esprit des lieux, à une certaine idée de Paris. C'est un collectionneur aussi. Donc la scénographie avec Jean Le Gac. Voilà, il aime aussi les bibliophiles. Hein. Il aime beaucoup, je pense, Arsène Lupin, etc.
Oui, oui, oui. Mais même avec Gérard Massé, donc ce sont deux amis, des gens que j'estime énormément, évidemment, et qui comptent beaucoup pour moi, Gérard Massé, tient pour l'un des tout premiers écrivains, poètes à l'heure actuelle, et Jean Le Gac, l'artiste qu'il est. J'avais déjà dédié chacun des deux livres à eux deux, donc j'ai pu les rassembler, ça me fait très plaisir. En plus, pour Jean Le Gac, il y a une petite... un petit jeu, parce que... je me suis amusé, là aussi, bon, peut-être qu'on en reparlera, je me suis amusé, évidemment, je n'ai pas pu résister un moment, de glisser dans ce répertoire un personnage, j'allais dire fictif, mais doublement fictif, c'est-à-dire un personnage qui n'existe dans aucun roman que j'ai imaginé, avec quantité de renseignements qui sont un peu cryptés, et dont l'une des adresses est celle de Jean Le Gac, et c'est lui qui est en partie... qui a servi un tout petit peu de modèle à ce personnage.
Alors, c'est vrai, donc il y a des clins d'œil. Hein. C'est
voilà,
un livre
à tiroir,
on pourrait dire.
Alors, clin d'œil, je veux dire, à partir de dans les adresses, dans les explications.
C'est un livre à tiroir avec des. Enfin, il y a la première partie où vous expliquez, vous revenez, qui d'ailleurs c'est un récit, et puis la seconde partie où il y a le personnage, ouais. Et puis avec ces différentes adresses, personnages fictifs.
Donc, alors, oui, pour chaque entrée est donc un nom de personnage avec les indications. Bibliographique et puis une petite notice, alors qui peut être très courte ou bien beaucoup plus détaillée, que j'ai rédigée souvent de façon humoristique pour rappeler un peu certains traits du personnage ou du roman d'où il vient. Et ensuite il y a ses adresses. Certains personnages ont multiplié les adresses. Et chaque adresse donne lieu à aussi un commentaire, quand c'est possible, pour essayer d'expliquer pourquoi l'auteur a choisi telle ou telle adresse. Il y a toujours une explication. Aucune adresse n'est choisie au hasard. Jamais. Jamais.
Alors, ça commence votre récit, Didier Blonde, par cette phrase « Arsène Lupin habitait à côté de chez moi et je ne le savais pas ». C'est une phrase riche de sens, puisque ça la signifie aussi qu'on est toujours à deux doigts de la fiction et qu'on ne le sait pas. Et qu'il y a toujours, vous écrivez d'ailleurs plus loin, « Est-ce ma vie brusquement qui basculait dans la fiction ou l'imaginaire qui s'installait dans ma réalité ?» Donc, c'est ça qui est fascinant dans votre vie, Didier Blonde, et dans votre parcours, c'est... Il y a l'enfance qui est pas loin, on est à la croisée des chemins souvent, hein, l'écriture, lecture, personnage, fiction, réel, imaginaire.
Oui, même si ça peut paraître un livre qui, au fond, que d'autres personnes auraient pu réaliser, une sorte de bottin, il m'est au contraire très, très, très personnel, en touchant ce qui est au cœur de mon imaginaire, on va dire. Vous parliez donc de ce début, Arsène Lupin, je raconte l'expérience originelle, au fond, très, très forte, au début de l'adolescence, comment j'ai découvert, en lisant une des aventures d'Arsène Lupin, qu'il habitait juste à côté de chez moi. Et je me souviendrai toujours de ce choc que j'ai éprouvé à ce moment-là, de voir le nom de ma rue, le numéro précis, enfin quelques numéros près, et je me suis demandé, Olivier, si c'était moi qui basculais dans la fiction ou si c'était la fiction qui devenait véritablement réelle. Et c'est cette espèce de zone un peu tremblée, un peu indécidable entre réel et fiction que l'adresse apporte. C'est pour ça que j'attache énormément d'importance à ces adresses qui souvent n'ont l'air de rien, qui sont données comme ça, glissées, et sur laquelle depuis cette époque je m'arrête, que j'ai collectionné, répertorié, je suis allé voir, enfin voilà, ça donne tout un ça ouvre un espace je trouve considérable. Il y a une sorte aussi de mémoire des lieux, je veux dire, tous ces personnages, je suis convaincu, ou presque, que j'aurais pu les rencontrer là, je pourrais les rencontrer, je pourrais même en appeler certains au téléphone, parce qu'il y a des numéros de téléphone précis, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette espèce d'interstice du réel, cette espèce de frontière indécidable entre le réel et l'imaginaire.
Et puis il y a cette phrase aussi de Maurice Leblanc, hein, je crois que c'est un mot d'Arsène Lupin. Adieu, je vous écrirai, vous aussi, n'est-ce pas? J'attends de vos nouvelles, une carte postale de temps à autre, comme Arsène Lupin. Comme Lupin, Paris, c'est suffisant. Inutile d'affranchir, j'ai bien aimé ça, inutile d'affranchir. Ça veut dire que le personnage, son imaginaire, sa présence est suffisante. Et Maurice Leblanc s'en amuse lui-même, au troisième degré, pour dire voilà, personnage subsiste et il y a des lettres comme ça. Et c'est vrai que Maurice Leblanc, c'est vraiment un univers riche en bouteilles à la mer.
Oui, je le dis, Arsène Lupin a été d'un de mes auteurs de prédilection. Il reste un de mes auteurs de prédilection. C'est un... Je l'ai lu pour la première fois, je devais avoir 12-13 ans. C'était les premières rééditions en livre de poche, hein, la question de le livre de poche. Donc c'était mon premier auteur vraiment au fond moderne, qui habitait presque le monde dans lequel je vivais, parce qu'avant, j'étais un gros lecteur de Jules Verne, d'Alexandre Dumas ou de... Vous savez, des secondes, des légendes, etc. Mais là, c'était vraiment quelqu'un qui vivait presque dans cet univers que j'avais connu ou qu'avaient connu mon père ou mes grands-parents. Donc il a beaucoup compté pour moi. L'imaginaire parisien, même si Lupin n'est pas né à Paris, c'est, l'essentiel de ses aventures sont parisiennes, avec ce goût qu'il a pour les pseudonymes aussi, personnages masqués, comme ces adresses qu'il multiplie. Je me suis beaucoup intéressé aux romans populaires, comme Fantomas, Rocambole, etc., qui ont vraiment nourri mon imaginaire, essentiellement parisien. Ces histoires d'amour aussi, à chaque fois, parce qu'il y a toujours une femme. Il a eu autant de femmes que d'adresses, on pourrait dire. Cette espèce de toute-puissance aussi, mais dans l'ombre. Enfin bon, voilà, c'est un personnage qui est toujours lu encore par les jeunes, je pense. Enfin, il est toujours réédité en livre de poche, donc il continue d'avoir des lecteurs et qui m'a beaucoup nourri. Alors, oui, Maurice Leblanc joue beaucoup avec ses adresses. Il y a un très grand nombre d'adresses et beaucoup sont cryptées. Et notamment, il y en a une qui est l'adresse personnelle de Maurice Leblanc, très exactement un endroit où il a habité pendant plusieurs années. Et il donne le numéro de téléphone qui était également le sien. Donc c'était très rare à l'époque. Donc on peut imaginer qu'un lecteur, voyant ce numéro de téléphone, a pu le composer et tomber sur Maurice Leblanc, alias Arsène Lupin, enfin l'un ou l'autre, puisque Maurice Leblanc apparaît comme historiographe d'Arsène Lupin, et prendre peut-être des rendez-vous pour son héros.
C'est le 95 rue Charles Lafitte, non? C'est peut-être pas ça.
Alors c'est pas cette adresse-là, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Je crois que c'est le 8 rue Crevaux. Il a une quarantaine d'adresses. Le 95 rue Charles Lafitte, qui était donc juste à côté de l'endroit où habitaient mes parents, c'est un entrepôt de meubles volés qui est dissimulé dans une arrière-cour.
Alors vous parlez de certificat d'existence, et ça j'ai bien aimé ce terme, voilà, des certificats d'existence. Vous écrivez « Les immeubles parisiens sont des palimpsestes de l'imaginaire romanesque, le cinéma a le privilège de pouvoir me restituer d'un seul coup d'œil en image de synthèse ». Alors c'est vrai que l'image, chez vous, Didier Blonde, a beaucoup d'importance. Les personnages, en fait c'est de la... Vous partez de la haute précision, vous parlez des adresses. C'est un détail, en fait, mais qui va vous amener très loin. Et un arrêt sur image aussi. C'est... Évidemment, le cinéma à Paris, les salles de cinéma, c'est magique.
Oui, alors, il y a quelques personnages. Je vois quelques personnages qui ont été des personnages du cinéma. Mais c'est quand même consacré à la littérature. Donc, c'est uniquement quand il y a eu des adaptations cinématographiques. Oui, bien sûr, je suis très très sensible aux images. Presque tous mes livres trouvent leur origine dans une image ou un film. Je suis un grand amateur du cinéma muet, qui est uniquement une image, donc qui recèle encore plus de puissance, de force.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de la crise à la danse, à l'épouse la meilleure, gentleman comme
Didier Blonde, oui, nous parlons toujours de votre livre « Carnet d'adresses » qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection « L'Arbalète ». Donc c'est vrai, on parlait du cinéma, de ces arrêts sur image qui comptent beaucoup pour vous, de ce souci à la fois de précision et de clin d'œil, voilà, de clin d'œil qui peut être inattendu. C'est une lecture de la ville que vous nous proposez.
Oui, la ville Paris essentiellement comme immense roman qui a beaucoup été filmé également au cinéma, comme s'il y avait des bibliothèques à l'intérieur de chaque immeuble, avec tous ces personnages qui se croisent depuis plus ancien que j'évoque, c'est la fin du XVIIIe siècle, et donne une sorte de fourmillement comme ça de notre imaginaire.
Alors vous écrivez, un roman, dites-vous, me fait simplement attendre les images en différé que je vais chercher sur place pour les légender de leurs sous-titres empruntés au livre. Alors Didier Blonde, bon, je voudrais qu'on parle aussi d'un autre personnage finalement, c'est J.B. Pontalis, qui a joué un grand rôle hein, dans votre parcours d'écrivain. Il a dirigé la collection L'un et l'autre chez Gallimard. Et c'est un peu lui aussi qui finalement est à l'origine peut-être de ce carnet d'adresses, qui a fait de vous aussi, qui a fait de vous un chasseur d'adresses.
Oui, c'était quelqu'un d'exceptionnel, évidemment, et sa disparition manque... c'est banal de le dire, mais c'est prouvé par beaucoup, très très fortement. Il était non seulement le grand psychanalyste et éditeur de psychanalyste que l'on connaît, mais il a donc fondé et dirigé cette collection, L'un et l'autre, une collection très personnelle. Et je pense que on est plusieurs, on n'aurait pas écrit les livres qu'on a écrits s'il n'y avait pas eu lui, JB comme on l'appelait, et cette collection qui était complètement atypique, complètement. La plupart des livres, comme ceux que j'ai publiés, j'en ai publié 4 dans cette collection, sont entre l'essai, le récit et dire avec une implication, un enjeu personnel fort, donc avec on va dire des éléments presque autobiographiques un peu de biais, ce qui fait sa très grande originalité. Et la plupart de mes livres au fond ont été presque attendus, faits pour cette collection. Certainement je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit s'il n'avait pas été là.
L'un et l'autre, donc c'est un...
La collection L'un et l'autre, oui, qui s'est arrêtée. Il avait demandé à ce qu'elle s'arrête à sa mort. Oui.
Et ça en dit long aussi sur justement votre façon d'écrire, L'un et l'autre. C'est-à-dire, il y a un personnage qui est toujours inhérent à la fiction, Didier Blonde. Alors, est-ce que comment ça s'est passé finalement? Vous aviez, il y avait une partie de livre qui était en partie écrite, il y a l'autre partie qu'il a fallu, ces deux chemins qui se rencontrent, parce que comment ça s'est passé pour l'écriture de ce carnet d'adresses à double fond, si j'allais dire, puisque il y avait déjà une collection d'adresses très importante.
Oui, alors, donc, en fait, il y a trois parties dans le livre. La première, donc, reprend en partie le carnet d'adresses que j'avais publié dans la collection L'un et l'autre, qui est un récit, comme je l'ai dit, avec des éléments presque d'essai, pour essayer d'expliquer quel travail font les romanciers dans le choix de leurs adresses. Donc, j'explique un certain nombre de choses, des adresses impossibles, des adresses imaginaires, des rues fictives, etc. Et moi, mon parcours à l'intérieur de tout cela, qui est suivi... Alors, donc, je l'ai repris, mais j'en ai fait ici une sorte de préface, une sorte de condensé, avec des éléments que j'avais mis dans le premier livre, mais que j'ai fait passer dans la deuxième partie, dans la façon où j'ai réagencé quand même l'ensemble, comme j'en avais l'idée. La deuxième partie, c'est une sorte de, on va dire, de potin, d'annuaire, avec les entrées qui correspondent aux noms des différents personnages, et leurs adresses. La troisième partie, qui est importante, j'y tiens beaucoup, ce sont deux index, un index par arrondissement et un index par rue, qui permet donc de partir d'une rue, d'un arrondissement, la topographie parisienne, pour trouver les différents personnages qui ont habité à cet endroit et qui permet de croiser les histoires. Et puis, qui permet pour le lecteur de savoir à côté de qui il vit, où il a vécu, sans s'en douter. Hein. Donc il y a des relations comme ça, c'est presque une sorte de jeu pour le lecteur qui permet de passer d'une partie à l'autre dans ces trois parties, parce qu'il y a des renvois entre la première partie préface et puis les différents personnages du bottin. Dans le bottin, je renvoie pour des compléments, comme ça, pour faire des rapprochements entre les différents personnages, les superposer. Donc c'est au fond une sorte de livre, presque jeu, d'une certaine façon, hein, qui, je crois, est aussi une sorte de guide presque touristique qu'on peut utiliser dans les rues de Paris pour improviser des promenades.
La première partie, moi, c'est comme un début de roman. Enfin, c'est vraiment, vous vous impliquez dans le récit, vous... Enfin voilà, c'est plus même qu'un récit. C'est oui, vous nous entraînez avec vous dans votre histoire, dans votre imaginaire. Vous dites par exemple, il y a toute. Vous dites une adresse me transforme en détective de l'imaginaire. C'est une.
Oui, parce que l'adresse est il y a un potentiel romanesque dans l'adresse elle-même. Encore une fois, on prend une adresse qu'on voit dans un roman pour, j'ai dit, une sorte, ce qu'on appelle un effet de réel, c'est-à-dire, bon, on y croit, quoi, parce que telle rue existe, et donc ça donne une crédibilité, voilà, ce que j'appelle un certificat d'existence. Hein, voilà. Or, quand on s'arrête là-dessus, et qu'on se met à creuser un peu, on s'aperçoit que, d'abord, on se posait la question, pourquoi avoir choisi telle adresse? Alors souvent, c'est des raisons, on va dire, historiques, sociologiques, quoi. Il y a des beaux quartiers, quartiers ouvriers, etc., ce qui va dans le sens de l'effet de réel. Mais très souvent, quand il y a un numéro, on s'aperçoit que le romancier joue avec le lecteur, parce qu'il y a énormément d'adresses qui sont fictives, qui sont cryptées. Comme je le disais, on ne peut pas choisir une adresse au hasard. Le romancier il y aurait trop de risques de tomber juste sur quelqu'un qu'il n'imaginait pas, qui ne se correspond pas du tout, ou qui aurait été embarqué dans l'histoire qu'il raconte. Donc il y a des moyens d'évitement, puis il y a des moyens d'introduire de nouvelles histoires. Moi j'ai envie de savoir, je vais toujours sur place. Voilà. J'ai vérifié toutes ces adresses sur les lieux mêmes ou dans les archives, pour les adresses plus anciennes, dans les bottins, pour essayer de trouver une explication, ou dans les biographies de l'auteur, pour savoir pourquoi il avait choisi telle ou telle adresse.
C'est-à-dire que vous choisissez d'abord l'adresse et vous allez voir ensuite, alors qu'il y a des écrivains aussi, des romanciers, qui vont faire leur enquête sur le terrain, et après faire le tamis de toutes ces informations.
Ouais, j'en fais le parcours inverse de l'auteur. Quand un auteur domicilie un de ses personnages à telle ou telle adresse, je pense qu'il a enquêté avant, hein, c'était le cas de Zola, enfin on sait, etc. Moi, je vais sur le terrain pour essayer de trouver pourquoi, et puis pour voir. Et puis parce que c'est un grand lieu, un espace de rêverie extraordinaire. Évidemment, il y a des choses qui ont complètement, Paris en partie changé, il y a des endroits des immeubles qui ont été démolis, remplacés, etc. Mais il y en a qui restent presque tels quels. Et donc, je ne peux pas me défaire de l'idée que, voilà, au troisième étage de telle rue, Madame Arnoux a bien habité, comme Frédéric Nouraud, je passe sous ses fenêtres, je regarde, j'imagine, voilà. Et il y a une sorte de mémoire des lieux, même si c'est imaginaire, qui permet de remonter le temps et d'entrer à l'intérieur de cet univers. Je crois très très fortement à cette puissance que l'on a de pouvoir remonter le temps à partir de ces espaces. Et puis on trouve des explications, plein de choses, quoi. Je dis, chaque adresse ouvre à des espaces de rêves extraordinaires ou des enquêtes. Il y en a pour lesquelles j'ai pas pu d'ailleurs arriver jusqu'au bout. Mais enfin bon, si vous voulez, pour un romancier, la solution la plus commune et la plus simple, c'est donner sa propre adresse, comme le faisait Maurice Leblanc. Ils sont très nombreux, en fait, à donner leur propre adresse. Ils ont domicilié leur personnage là où eux ont habité. C'est le cas de Benjamin Malocène, par exemple, de Daniel Pénac, c'est le cas de Philippe Delerme pour Monsieur Spitvec. Balzac aussi a donné certaines de ses propres adresses. Là, ils sont sûrs, bon, de ne pas déranger par des lecteurs qui viendraient réclamer. C'est le cas de... Alors, il joue là-dessus de Simenon, qui, dans un de ses Maigret, les Mémoires de Maigret, fait passer Maigret pour un personnage réel, qui rencontre un personnage qui s'appelle Georges Simenon, qui dit « Eh ben, vous devriez, pendant la durée de vos travaux chez vous, boulevard Richard Lenoir, c'est très connu, l'adresse de Maigret, vous devriez venir habiter chez moi, je vais partir en vacances, je vous laisse mon domicile. » Place des Vosges. Donc il s'amuse, il fait une sorte de clin d'œil pour montrer comment le romancier qu'il fait apparaître en abîme à l'intérieur de son roman joue avec sa propre adresse, par exemple. Hein.
Et avec son lecteur, parce que le lecteur du coup devient chercheur. La notion d'intertextualité, Didier Blonde, le côté ludique, est-ce que l'Oulipo, par exemple, ça vous a intéressé, ça vous intéresse, parce qu'on sent que c'est un roman dans le roman, comme les poupées russes. On sent que c'est ça qui vous... Même quand vous écrivez ce livre Carnet d'adresses, on passe de trois étapes narratives que vous entremêlez. Vous aimez ce passage d'un livre à l'autre avec des continuités, des liens, des rhizomes, on pourrait dire.
Oui, oui. Il y a une sorte de jeu, une sorte de grand Herpels ou bien de jeu de loi, on pourrait dire, parisien, avec des passages d'un endroit à un autre, d'une adresse, on peut passer à une autre. Il y a des correspondances, c'est le cas de le dire, entre différentes adresses. Et puis des jeux entre, évidemment, des adresses cryptées d'auteur à auteur. Alors, Oulipo, enfin Pérec, évidemment, hein, c'est un de mes auteurs de prédilection aussi, c'est beaucoup intéressé à l'espace, à tous ces jeux. Il y a un de ses romans qui est bien représenté, qui est La vie mode d'emploi. Vous savez, ce roman où il y a plein d'histoires à l'intérieur d'un seul immeuble, qui est 11 rue Simon Crubellier, dans le 17e arrondissement. Et le 11 rue Simon Crubellier n'existe pas, c'est une adresse fictive. La rue est fictive, la rue n'existe pas, bien qu'il la donne des repères apparemment très précis. Donc, ce qui passe pour authentifier, au fond, est de la fiction. Et il n'y a pas de numéro 11. Alors, on peut demander... Alors, donc, ce qui est le signal, ce qu'on prend pour un certificat d'authenticité, on s'aperçoit au fond que c'est fictif, ce qui est une façon de signaler au fond que tout est fictif, parce que ce qu'on prend pour la réalité, d'habitude, l'adresse, au fond, c'est qu'un double fond. Je me suis posé la question, pourquoi 11 rue Simon Crubelier? Là, je verrais qu'il y a toujours des explications. Le numéro 11 correspond à la date du départ du train pour Auschwitz de sa mère, 11 février. C'est un chiffre qui revient très souvent chez lui, qui est un chiffre, on va dire, mémoriel. Et Simon et Crubelier correspondent au nom de deux de ses amis. Voilà, Richard Simon et Simon Crubelier. Donc voilà, ce sont des clins d'œil, évidemment, qui fonctionnent pour les Happy Few, comme aurait dit Stendhal. Il y en a beaucoup comme ça. Et Douglas Kennedy, l'auteur américain, domicilie une de ses héroïnes, c'est dans la femme du 5e arrondissement, rue Linet, le numéro, je crois que c'est 5 rue Linet, qui a été un des domiciles de Georges Perec. Donc c'est un clin d'œil à Georges Perec. De la même façon, Modiano, domicilien de ses personnages, c'est dans son roman Quartier perdu, 45 rue de Courcelles. Et le 45 rue de Courcelles a été le domicile de Proust. Vous voyez, donc ça joue comme ça aussi avec la littérature elle-même. Ce sont des types d'adresses cryptées là qui peuvent être déchiffrées par au fond n'importe quel lecteur qui est un petit peu curieux et qui aime la littérature. Puis il y a des indices qui permettent de trouver. Ce sont des formes d'hommage aussi. Hein. Oui. Ce sont les mêmes univers évidemment, Modiano, Proust. Ce sont des explications, mais il y en a d'autres encore. De ces adresses cryptées.
Alors vous invitez en quelque sorte votre lecteur Didier Blonde à jouer les passe-murailles, puis nous aussi on va jouer un petit peu de passe-murailles, on va faire une petite pause qui va permettre d'écouter un peu de musique et nous poursuivons notre conversation.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Et oui, nous sommes toujours en compagnie de Didier Blonde. Nous parlons de carnets d'adresses, de quelques personnages fictifs de la littérature. Ça vient de paraître chez Gallimard. Voilà. Alors Didier Blonde, bon, j'essaie de cerner votre cartographie personnelle. Mais c'est bien, parce que ça montre aussi que la lecture, c'est un effort. C'est jamais fini. On retourne toujours. On parlait du jeu de loi tout à l'heure, mais on retourne toujours à la case départ.
Oui, enfin, littérature, c'est d'abord une de mes grandes passions, évidemment. Et puis, vous parliez de cartographie des auteurs. C'est ici aussi une cartographie, on va dire, parisienne, parce que par la force des choses, c'est bien 90% des héros de la littérature française, mais même étrangère, parce qu'il y a des personnages étrangers, ont vécu, sont passés par Paris. Donc, il y a ce qui fait penser au jeu de loi, évidemment, cette cartographie par arrondissement. Il y a d'ailleurs des arrondissements qui sont surpeuplés de héros et d'autres totalement dépeuplés. C'est très curieux de se rendre compte de cela.
Lesquels, par exemple ?
Eh ben, le 19e arrondissement, par exemple, pendant très longtemps, je n'avais aucun, pas un seul personnage, qui est quand même incroyable, qui habitait là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions de romans qui s'y passent, mais aucun. Finalement, j'en ai trouvé un personnage tout à fait secondaire d'un roman de Jacques Reda qui s'appelle Pelby. Donc je l'ai fait figurer pour qu'il y en ait au moins un.
Il y a le 20e, par contre, le 20e arrondissement est plus gâté. Là, il y a des personnages. Vous citez aussi un auteur contemporain, je pense à Yannick Enel, qui a écrit Cercle, qui est un très très beau roman. Et où il fait mention, justement, je crois que c'est la rue Stendhal, j'en suis pas sûre. Mais
oui, alors, aussi, c'est. Il parle de la rue Stendhal, il parle de la rue Lucien Leven, qui donne dans la rue Stendhal. À Paris, on pourrait s'en étonner, il n'y a que trois rues qui portent le nom de personnages de roman. Il y a la rue Lucien Leven, qui est misérable petite rue, enfin, sans aucun intérêt, dans un quartier que Stendhal n'a absolument pas fréquenté. Enfin, Lucien Leven et Stendhal mériteraient mieux, on pourrait dire. Et puis il y a la rue Monte Cristo et la rue D'Artagnan. Il y a bien le métro Alexandre Dumas, et c'est à proximité. Mais c'est tout. Et je trouve vraiment qu'on pourrait donner des noms de personnages à quantité de rues parisiennes. Il y a des personnages qui représentent tellement Paris dans la littérature que ça devrait leur revenir, oui.
Et puis, alors il y a aussi, on parlait tout à l'heure de Pérec, on parlait aussi de Modiano. Comment dire, les adresses sont des laboratoires à personnages. Les adresses qu'on a connues, notre Paris à nous. J'ai connu, dites-vous, un vieux célibataire qui déménageait pour suivre son concierge. Ça s'invente pas.
Non, non, c'est vrai, c'est tout à fait authentique. Oui, comment on peut être attaché comme ça à ces personnages, parce que le personnage du concierge, un personnage aussi emblématique de la littérature, il y en a plusieurs que j'évoque, Pipelet par exemple, couple célèbre, et puis il y a un roman formidable d'un auteur de romans populaires que plus personne ne lit maintenant, qui s'appelle Eugène Chavette, qui a écrit un livre qui s'appelle « Aimer de son concierge ». Et comme l'a fait Pérec avec La vie mode d'emploi, ou bien Zola avec Pobou, il y en a d'autres, toute l'intrigue du roman se passe dans un seul immeuble. Hein. Donc il a inauguré ça un petit peu. Et le personnage clé au fond de la vie de cet immeuble, c'est le concierge. Donc voilà, ce sont des personnages très emblématiques de la vie, on va dire, romanesque et la vie parisienne.
Et puis, il y a des résonances, là, nous en avons quelques-unes, on entend des bruits, la ville fait des bruits, il y a plein de personnages, là, vous voyez, ça doit être le jardinier qui passe, donc nous sommes dans un lieu où il y a un jardin, et des bibliothèques, et ben oui, on n'y échappe pas, donc ça c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, Didier Blonde, on parle de ces, moi, c'est vraiment ce qui vous intéresse, c'est la création de personnages, vous dites l'auteur, dites-vous, n'a pas tout dit, et son héros poursuit seul son existence dans les marges du récit, au milieu de son décor familier. Je prends sa création au mot.
Oui, là, moi je le prends vraiment au sérieux. Quoi. Il y a eu toute une période, on le sait, avec une sorte de disparition du personnage à laquelle je n'ai jamais cru. Quoi. Et je pense que on peut pas aimer le roman, la littérature, si on n'aime pas et si on ne croit pas à la vie réelle, elle peut être dans notre imagination, mais l'imagination parfois est plus réelle que la réalité elle-même, de tous ces personnages. En tous les cas, moi je vis parmi ces fantômes quoi, de personnages. Et évidemment, leur donner une adresse, c'est leur donner un surcroît de réalité, mais le romancier ne dit pas tout, évidemment. C'est relativement peu la vie d'un personnage. Or, en allant, moi j'aime bien, en allant sur les lieux, en voyant où il a habité, ce personnage, en prenant dans les archives les bottins de l'époque, les propriétaires, locataires, ceux qui habitaient à sa proximité, etc., je remplis enfin toutes ces marges et je continue de le faire vivre. Je crois que pour les personnages forts, Madame Arnoux, le père Goriot, enfin bon, ils arrivent à sortir même de l'histoire qu'a raconté le romancier pour vivre avec nous, continuer leur vie. C'est ce que je fais sur les lieux même de leur existence.
Nous avons changé de lieu, bah oui, parce que nos auditeurs se demandent qu'est-ce qui se passe, nous passons d'une pièce à l'autre, c'est un peu le jeu des chaises musicales, un petit peu comme dans vos livres, on passe d'une pièce à une autre, un peu comme dans le roman de Pérec, La vie mode d'emploi, Didier Blonde, et nous parlons toujours de carnet d'adresse, de quelques personnages fictifs de la littérature, ça vient de paraître chez Gallimard. Alors c'est vrai que bon, moi j'aime bien ce côté exploration, parce que finalement on n'en finit pas, c'est ce qui vous plaît dans la littérature, Didier Blonde, c'est qu'on passe de la lecture à l'écriture, d'une image à une autre, d'un personnage à un autre, et on parlait de ce fameux histoire de concierge tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des personnages de la vie réelle qui nous font, qui sont à eux seuls des poèmes.
Oui, alors, donc toujours par l'intermédiaire de ces adresses, on peut passer d'un roman à un autre. Il y a, par exemple, on parlait des arrondissements, des quartiers qui sont plus ou moins représentés, il y a des rues aussi avec une forte densité. Par exemple, chez Balzac, la rue Taitbout, est le lieu de le domicile, il y a des domiciles de plusieurs de ses propres romans, comme si lui-même jouait, enfin bon, avec ça, et dans des romans différents. Donc son modèle, c'est la comédie humaine qui fait comme ça s'interpénétrer différents romans et des personnages qui passent de l'un à l'autre. Au fond, c'est le modèle qu'on retrouve, par exemple, dans la rue Pied-de-Bou ou dans des rues d'autres rues parisiennes. La rue de Varennes aussi, dans le 7e arrondissement, est peut-être une des rues où il y a le plus de personnages de romans. C'est là qu'habite Raphaël de Valentin, de Balzac, Julien Sorel, de Stendhal, la comtesse Ferraud, comtesse Chabert. Il y en a d'autres encore, là, que je ne bon, sais plus, toutes les dans la tête, comme ça. Et donc, oui, c'est comme une sorte de jeu de loi, jeu de Monopoly, qui fait, au fond, ce... qui donne la possibilité de faire se croiser différentes histoires, différents personnages qui appartiennent à des univers et des provenances diverses, mais on a une sorte comme ça de vaste roman, je dis de vaste roman surmultiplié. Paris est, l'expression est de Balzac, la ville aux 100 000 romans. Mmh. Hein. Et à travers donc ce carnet d'adresses, on peut circuler comme ça de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre. Je me suis rendu compte que, par exemple, il y a deux romans qui se passent où des personnages habitent à côté de Saint-Philippe-du-Roule. Et de façon, un roman d'Alexandre Dumas et un roman de Simenon. Ça n'a rien à voir. Et il y a les deux personnages, à un moment, qui habitent juste à côté, pas exactement d'ailleurs dans la même rue, disent, et ils entendent sonner les cloches de Saint-Philippe-du-Roule. C'est exactement la même phrase qu'on retrouve comme ça de l'un à l'autre. Et donc c'est amusant de voir comment il peut y avoir ces espèces, oui, de croisements pour ce vaste roman que chaque lecteur est amené à faire, au fond, dans sa lecture personnelle.
Alors, vous dites, je plaide pour une signalisation de l'invisible. Il est temps que la ville reconquière le terrain perdu de son imaginaire. La ville est très présente. Là, c'est Paris. Est-ce que, d'ailleurs, il y aura un second volume de carnet d'adresses qui pourrait être la France, qui pourrait être poursuivre. Est-ce que vous poursuivez aussi vos recherches, Didier Blonde, en France, il y a des châteaux. Je passe un Balzac qui est très présent dans votre livre. Il y a quand même des lieux en France qui ont donné lieu aussi à l'inspiration pour les romanciers. Est-ce qu'il y aura une suite, finalement? Est-ce que cette recherche que vous avez, elle va se poursuivre en France ou même ailleurs, pourquoi pas à l'étranger? Est-ce que ou c'est vraiment parisien? Voilà, pour le livre, c'est parisien, mais est-ce que c'est la recherche est terminée ou pas? Ou est-ce qu'elle fait peut-être que commence, pas que commencer, mais elle peut avoir une suite?
Oui, bien sûr, c'est quasiment sans fin. Mais d'abord, j'ai choisi Paris. Je ne suis pas du tout sectaire, du tout. On peut faire la même chose pour quelques autres grandes villes. Simplement, moi, je suis né à Paris. Voilà, j'ai Paris dans les pieds. Vraiment, la plupart de mes livres, c'est le lieu où ma vie s'est inscrite. Donc, il y a ça. Mais surtout parce que, encore une fois, au 19e siècle surtout, mais encore au début du 20e siècle, tout le 20e siècle, presque tous les personnages de romans, encore une fois, ont habité, c'est le propre de Paris, de la France, de son histoire. Donc il y a une sorte de condensé comme ça, très très fort. Mais il y a des personnages qui viennent de la province, comme on ne dit plus maintenant. Il y a des personnages qui viennent de l'étranger, attentif à ça, des personnages de Henry James, par exemple, dans Les Ambassadeurs, tout le roman se passe à Paris, personnages de Thomas Mann aussi, enfin, il y a beaucoup hein, de personnages étrangers. Il y en a quelques-uns qui viennent de la bande dessinée aussi, il y a Black et Mortimer, voilà, qui viennent, il y a disons, deux histoires quand même fameuses qui se passent à Paris, donc ils vont chaque fois à l'hôtel Louvois, Adèle Blanc-Sec. Donc, c'est pas du tout par sectarisme. Hein. Et d'autre part, je dis que c'est sans fin. Évidemment, je continue toujours, moi, depuis que j'ai dit jeune adolescent, je notais ses adresses, je continue toujours. Quand dans un roman qui se passe à Paris, je vois des adresses, je continue de les relever. Mais mon but n'était pas d'être exhaustif, évidemment, c'est totalement impossible. J'en ai beaucoup d'autres que j'ai laissés de côté, et même si je l'enrichis au fur et à mesure des années, c'est aussi une sorte de bibliothèque personnelle. Ce sont des personnages, des romans, des romanciers, des personnages que j'aime, qui me sont familiers, avec lesquels j'aime vivre, parce que j'ai rencontré aussi, j'ai lu des romans qui m'ont déçu, des personnages avec qui je ne me sens aucune affinité, même si certains personnages comme Fantomas sont des personnages monstrueux, je veux dire, mais j'y suis attaché pour une raison ou une autre. Et il y en a beaucoup, il y en a que j'aurais très bien pu mettre, on peut en penser, et que j'ai laissé de côté. Mais à chaque lecteur, éventuellement, d'en ajouter. Enfin, encore une fois, j'avais fait un premier répertoire il y a 10 ans, il s'est considérablement enrichi. Hein.
Oui, oui, oui.
Et puis, c'est pas, encore une fois, c'est pas seulement une liste de personnages avec leur adresse, ce qui serait très vite lassant. Il y a aussi des notices qui expliquent des façons de déchiffrer ces adresses. À chaque entrée, à chaque adresse, je dis, il y a comme un nouveau roman qui s'ouvre, quoi, hein, qui lance dans le romanesque. Voilà.
Alors oui, c'est ça qui est, c'est tout ce qui est autour, finalement. Il y a l'adresse. Alors vous dites, mon obsession du numéro exact est celle du guetteur amoureux. Alors là, on pense aussi à Nadja, on pense aux paysans de Paris aussi, on pense à tout ce que ça amène. C'est-à-dire, il y a un détail, il y a une vision. En fait, vous êtes, on pourrait dire, vous êtes un écrivain très visuel. Vous dites, vous avez l'oreille, une oreille presque absolue, mais on pourrait dire que vous êtes un écrivain très, très visuel, parce que en tous les cas, le lieu, les circonstances, l'atmosphère, à la Simenon ou à la Modiano, ou, c'est là que vous trouvez votre petite musique de Didier Blonde.
Oui, 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 beaucoup. Oui, je disais, j'aime aller sur les lieux, encore une fois, l'importance des lieux, donc cette mémoire des lieux, les descriptions qui sont faites, et même ces espèces, encore une fois, un numéro dans une rue, c'est une sorte de condensé de tout, pour moi, j'essaye de ramener tout ce qu'il y a autour, là, qui est une sorte de petite pilule comme ça, ou bien ces fleurs, vous savez, dans les japonaises, qui, quand on les met dans l'eau, après, éclosent, et à partir de ça, je suis très attentif, j'aime beaucoup ça. Alors, il y a des auteurs de prédilection, vous avez cité Modiano, qui est aussi un amoureux de Paris, et beaucoup de ses histoires, ses personnages ont habité, vécu à Paris, et donc il a une utilisation aussi très très personnelle des adresses. Je citais l'hommage à Proust. Il y a dans une de ses histoires quelque chose qui est très très émouvant. Vous connaissez bien sûr le livre qu'il a consacré à Dora Bruder. Dora Bruder habitait 41 boulevard Ornano. Et donc pendant longtemps il y a pensé, et puis il reportait l'écriture de ce livre dans un livre qui a précédé Dora Bruder, qui s'appelle Voyage de noces. L'héroïne s'appelle Ingrid Tersen et elle habite 39 bis boulevard Ornano. 39 bis boulevard Ornano. Quand on va sur place, comme on l'a fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bis. On passe du 39 au 41.
Et oui, voilà.
Mais le 39 bis, au fond, occupe la place du 41. Et il y avait, de la part de Modiano, avant de parler de Dora Bruder elle-même, cette espèce d'esquisse, au fond, qu'il en a donné dans un personnage romanesque, qui emprunte beaucoup à la vie de Dora Bruder avant, et en lui donnant cette sorte de petite adresse fictive qui renvoyait, qui anticipait sur Dora Bruder elle-même. Et donc là, c'est une adresse cryptée aussi qui est évidemment très, très émouvante. Il faut se méfier de tous ces petits bis.
Ce sont un peu les numéros bis, Didier Blonde, c'est un peu comme des post-scriptum. Vous dites, ces bis insidieux et fallacieux placent la fiction immobilière dans les interstices du réel en les dédoublant. Donc il y a quelque chose de... Le bis, c'est encore... c'est le propre de la littérature. C'est le double, c'est là où on bascule, c'est oui, il y a cette version-là des faits, mais il pourrait y en avoir une autre encore, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et c'est d'ailleurs, vous parlez aussi souvent des passages, je crois à un moment donné dans votre livre, Didier Blonde, des passages de... il y avait un moment, vous racontez, je crois, je sais plus si c'est dans Maurice Leblanc, mais qu'il y a...
Les
il y a un homme...
Parisiens, ce sont, ah oui, il y a plusieurs passages, évidemment célèbres, Céline. Louis Fédanian, Céline, habité dans un passage. Et le personnage de... c'est dans Mort à crédit, où il raconte son enfance. Il le fait habiter Passage des Bérézina. C'est un nom fictif. On voit bien Bérézina, et qui renvoie en fait au passage Jouffroy. Je crois que c'est le passage Jouffroy. Il y a une plaque d'ailleurs. Donc c'est un lieu évidemment hautement romanesque. De la même façon, vous parliez du paysan de Paris. Le paysan de Paris a toute une partie consacrée au passage de l'opéra, qui a été détruit depuis, mais où se situe une grande partie des histoires que j'ai fait entrer dans le personnage de Mire. La belle Mire, alors ça c'est dans Anicet ou le Panorama roman, autre texte d'Aragon. Hein. Les passages, oui, sont des lieux hautement romanesques, on les voit apparaître au milieu du 19e siècle et tout de suite ils ont fasciné les romanciers et les piétons de Paris.
L'imaginaire, dites-vous, devient réel. Ce sont des adresses de rêve pour des êtres en fraude. Ça, j'aime bien. Des faux vivants qui mettent le roman au coin de la rue, mettre le roman au coin de la rue. Et je pense aussi à un autre, à un moment donné, vous parlez d'un théâtre de l'étrange, d'un hôtel particulier construit par François de Mélamar, oui, par amour de sa maîtresse. La folie Valnerie, la copie conforme de son hôtel, deux adresses pour un même décor, ubiquité des lieux. C'est-à-dire qu'il avait construit, en fait, il avait deux lieux. Faut que nous racontiez cette anecdote-là.
Oui, ça, on revient à Maurice Leblanc et Arsène Lupin, puisque c'est une des aventures d'Arsène Lupin, qui s'appelle La demeure mystérieuse. Ouais, un livre fascinant et aussi très riche pour l'imaginaire parisien, comme la plupart des autres romans de Maurice Leblanc. Oui, la solution de l'histoire, c'est que Arsène Lupin finit par découvrir que il y avait, par amour de sa maîtresse, autrefois, un aristocrate, François de Mélamar, a fait construire à l'autre bout de Paris la copie conforme de l'hôtel particulier qu'il possédait. Copie conforme. Parce que il vivait avec sa femme et sa famille dans un coin de Paris, et il rejoignait sa maîtresse exactement dans le même décor. Voilà. Sans doute qu'il avait moins l'impression de la tromper. Et des années plus tard, donc, il y a une histoire d'enlèvement. La jeune femme qui est enlevée reconnaît exactement le décor où on l'a séquestré, mais c'est pas du tout l'endroit où ça se trouve, etc. Enfin bon, l'histoire est un tout petit peu compliquée. Arsène Lupin finit par découvrir ces deux hôtels particuliers qui sont strictement identiques, là, comme s'il y avait effectivement une... Alors on se demande lequel est le vrai, quoi. Et Maurice Leblanc, évidemment, dit maintenant, il y en a un des deux qui a été détruit, qu'on ne trouvera pas.
Le jeu de miroir tout le temps, et aussi cette autre anecdote que vous racontez, enfin c'est écrit, hein, c'est Jules Romain. Vous dites qu'il divulgue les secrets de 365 appartements, donc comme les 365 jours, qui reliaient clandestinement la place de la Bastille à l'ancienne barrière des martyrs. C'est assez fascinant, quoi.
Oui, histoire fascinante, ça, qui est racontée par Jules Romain, grand romancier aussi de Paris. Enfin, il a écrit des textes formidables sur Paris. C'est dans un des volumes des Hommes de bonne volonté. Hélas, les gens ne lisent plus beaucoup. Il s'appelle Vorge contre Quinette. À un moment, est racontée cette histoire qui appelle la légende des 365 appartements. L'histoire des 365 appartements. Ça se passe à un moment donc au XVIIIe siècle, et il y a une sorte d'architecte un petit peu fou et de société plus ou moins clandestine qui, pour échapper aux poursuites et se fondre dans le décor, a construit une sorte d'itinéraire qui traverse 365 appartements de Paris, qui traverse donc tout le Paris de l'époque, avec une seule clé. Chaque propriétaire de ces appartements a cette clé, et donc va au fond d'un appartement, ouvre une porte qui débouche sur un couloir qui permet, toujours avec la même clé, d'entrer dans un autre appartement et passer ainsi d'appartement en appartement, de traverser les rues, parfois en passant par les caves. Voilà. Et c'est une invention absolument... Alors, c'est fictif, évidemment, mais c'est merveilleux. On se prête à y croire. Et Aragon... Jules Romain en parle. Maintenant, il y a des parties d'itinéraire qui ne fonctionnent plus très bien parce que les immeubles ont été détruits, mais il y a encore des rendez-vous clandestins amoureux qui sont donnés, comme ça, il y a des amants qui peuvent se rejoindre grâce à cette clé qui ouvre un petit peu tout cet imaginaire parisien formidable.
La clé des songes, vraiment, on passe... il faut toujours, en fait, quelque chose qui nous aide à passer de l'autre côté du miroir. Donc les lieux sont là, toujours, pour nous guider, Didier Blond.
La porte dérobée au fond de l'appartement, il suffit de la pousser, et qu'est-ce qu'on va trouver, quoi. Donc ça, c'est le cinéma, on connaît bien ces choses-là, mais les romans, et là, c'est formidable. Alors, c'est Eugène Sue qui a écrit « Les mystères de Paris », hein, quand même... et qui a donné après naissance à quantité de copies. Parce qu'il y a eu les mystères de Londres, les mystères de... qui a eu un succès phénoménal. Donc il y a, là encore, cette espèce d'imaginaire à travers l'histoire et l'immobilier parisien, tout, qui a été repris par le roman populaire. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Eugène Sue, où il y a un Ponson du Terrail avec Rocambole aussi, le dernier grand à avoir... exploiter tout cet univers magique, c'est le personnage de Fantômas avec Pierre Souvestre et Marcel Alain juste avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, je crois que le cinéma a pris le relais, hein, même s'il y a quantité, évidemment, tout le 19e, 20e siècle, les romans se passent aussi à Paris, mais plus avec cet aspect autant aussi mystérieux qu'il y a avec les égouts, les toits, voilà, le Paris nocturne, on découvre tout ça, c'est devenu le grand lieu de l'aventure moderne, quoi. Et les surréalistes ont bien utilisé cela.
Pour Fantômas, hier, j'ai regardé, il y avait toute une émission sur Fantômas, avec, je crois, le film de Claude Chabrol. On voyait, quel est un peu votre Fantômas préféré au cinéma, Didier Blonde? Parce qu'il y a le fameux Fantômas, combien connu, avec Jean Marais, mais moi j'ai découvert en tous les cas cette autre vision de Fantômas. Quelle était d'ailleurs votre découverte de Fantômas? Un souvenir d'enfance, j'imagine.
Oui, alors Arsène Lupin, c'est vraiment l'enfance. Oui. Fantômas, c'est l'adolescence, la fin de l'adolescence, même si c'est y a pas beaucoup d'années de différence, mais c'est un tout petit peu différent. Ça s'explique notamment parce que les Fantômas, au moins à cette époque, mais alors, maintenant c'est réparé, mais on les trouvait très difficilement. Ce sont des que les gens oublient, parce que ça a été énormément exploité et porté au cinéma, et les films d'André Hunebelle avec Jean Marais et Louis de Funès ont fait une partie de sa célébrité, même s'il dénature beaucoup quand même le personnage. Ce sont Pierre Souvestre et Marcel Alain, qui donc deux auteurs, qui entre 1911 et 1913 ont écrit cette gigantesque suite feuilletonesque, 32 volumes de 400 pages bien serrés chacun. Il y avait un volume qui paraissait chaque mois, vous imaginez. Donc voilà. Et ça a été immédiatement porté à l'écran. C'est-à-dire que pendant la rédaction même, la série n'était pas encore terminée, qu'il y a eu cette adaptation par Louis Feuillade de 5 épisodes, donc en muet, en noir et blanc, et qui sont formidables, parce que c'est filmé en grande partie dans les rues de Paris, sur les toits de Paris, dans les égouts de Paris. Donc on a vraiment là le Fantômas, on va dire, contemporain même de son invention, hein, et qui est une silhouette cinématographique extraordinaire, son col en noir, comme ça, cagoulé sur le ciel de Paris. Il a eu énormément d'influence. Moi, je me suis passionné pour ce personnage. Avec un ami, Dominique Khalifa, qui vient de disparaître, on avait refondé la Société des Amis de Fantômas, qui avait été fondée autrefois par Apollinaire, et pour redonner un peu vie à ce personnage. Alors, il a été adapté, oui, plusieurs fois au cinéma. Pour moi, le Fantômas, sans conteste, le plus réussi, le plus formidable, c'est encore une fois celui de Feuillade, donc 1913 et tout début de 1914.
Donc vous êtes un puriste, hein. Mais c'est vrai que...
Parce qu'il y a une émotion extraordinaire, à, encore une fois, à retrouver le Paris de l'époque, quoi. Voilà, qui n'est pas de la reconstitution. Là, c'était tourné dans les rues de Paris, et avec les passants qui parfois regardent la caméra, d'ailleurs, et Fantômas se mêle aux passants ordinaires, hein, et ça te procure une émotion extraordinaire. Et puis, je suis très, très intéressé, fasciné par le cinéma muet, que je trouve à une puissance encore de suggestion pour le spectateur. Non, mais il y en a eu beaucoup d'autres, avec plus ou moins bien réussi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ceux avec Jean Marais et Louis de Funès. Je ne vais pas bouder le plaisir. Simplement, ça n'a plus grand-chose à voir avec, si vous voulez, le Fantômas, on va dire, d'origine. Le contexte, encore une fois, des années 1910 est important. Donc, au fond, Fantômas est devenu une sorte tout le monde de forme vide dans laquelle tout le monde a mis beaucoup beaucoup de choses. Il y en a eu beaucoup qui sont bien. Il y a eu cette série là, il n'y a eu que 4 épisodes qui avaient été faits pour la télévision avec Helmut Berger dans le rôle de Fantômas, et qui, moi, j'étais assez décrié, que j'avais beaucoup aimé, hein. Voilà, avec Jacques Dufilho dans le rôle de l'inspecteur juive. Puis,
Et c'est vrai, mais voilà. Et on a vu d'ailleurs, il y avait un documentaire sur l'un des deux auteurs, je crois qu'il date de 1966, où l'un des deux auteurs, je crois que c'est Marcel Alain, je ne suis pas sûre, mais répond au téléphone, il dit: oui, vous êtes bien chez Fantômas. Donc c'est un clin d'œil aussi à,
oui,
votre livre.
C'est nécessairement Marcel Alain, parce qu'il était plus jeune que Pierre Souvestre, mais Pierre Souvestre est mort en 1914. Ouais. Et c'est pour ça que la série s'est arrêtée, alors que Marcel Alain est mort en 1969. Ouais. Donc il était très âgé, vous imaginez. Donc la différence. Et donc tous les entretiens qu'on peut avoir sur Fantômas, les enregistrements, c'est Marcel Alain qui raconte en déformant énormément de choses, mais bon.
Et oui, nous sommes toujours en votre compagnie, Didier Blonde, pour Carnet d'adresses, ce qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors, on a parlé beaucoup, on a changé de lieu entre-temps, c'est fou, hein, votre livre nous fait voyager d'une pièce à l'autre, d'un immeuble à l'autre, d'un univers à l'autre. Et à un moment donné, j'ai bien aimé aussi dans votre livre, cette notion d'ailleurs de cryptage, décryptage, et surtout vous parlez des adresses cryptées, glissées ici ou là, qui sont un peu fermées à double tour. Il faut être prêt aussi pour cette lecture-là, Didier Blonde. Et vous parlez aussi des dédicaces. Vous vous rappelez cette phrase de Baudelaire: je désire que cette dédicace soit inintelligible à propos de à propos de JGF dans les paradis artificiels. Vous aimez bien, oui, que ce jeu littéraire se poursuive, y compris dans les dédicaces, dans les... Finalement, l'écrivain est un semeur d'indices que le lecteur va collecter, mais c'est des indices, c'est pas comme on pourrait croire actuellement, du gros racolage, c'est pas la grosse artillerie, c'est tout en finesse. C'est l'intérêt pour vous de la littérature. On recueille ces indices, ils sont en filigrane, ils sont pas... Ce qui permet de relire un livre, de le relire indéfiniment.
Oui, enfin, ça, c'est... un bon livre peut se lire un grand nombre de fois. D'ailleurs, pas qu'un bon livre, un livre fort, oui, bien sûr, on ne le lit jamais de la même façon. Moi, j'ai toujours l'impression, quand j'ouvre un livre, que j'ouvre une sorte de trésor, quoi, caché, qu'il y a dans tout livre, une sorte de secret que je vais essayer d'approcher. Alors, non seulement il y a l'histoire, les personnages, je parle essentiellement de romans, hein, mais je me dis, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, ça m'intéresse d'essayer de trouver effectivement des indices, comme sur le lieu du crime. On dit, je prends cette expression lieu du crime comme métaphore, moi, plein de choses, hein, des scènes de cinéma. J'ai écrit un livre qui porte ce titre, Le lieu du crime. J'essaie de tout observer, déchiffrer comme ça, de trouver des signes. Et dans tout livre, je lis beaucoup, et entre les lignes, voilà, c'est déchiffré. Alors, je pense qu'il y a des petits cailloux blancs qui ont été dispersés par l'auteur, souvent, très souvent, comme ça. Il y en a une espèce de... enfin, chez Pérec, chez Flaubert. Je me dis, il y a toujours quelque chose d'autre qui nous est raconté. J'essaye de trouver ce secret enfoui. Alors c'est vrai que les itinéraires, les adresses, puisque c'est quand même ce qui est au cœur de ce livre, renferment pour moi une sorte de d'énigme, très souvent. Je veux savoir, je dis, pourquoi telle adresse, tel endroit. Donc j'ai mené des enquêtes, j'ai donné certains résultats, et puis parfois je bute, quoi. Hein. Et c'est quand je bute que justement j'ai envie de persister. Je parlais de Flaubert. Il y a que trois dans l'éducation sentimentale, qui est quand même son grand œuvre. Il y a trois adresses exactes, précises. Je voulais savoir pourquoi avec le numéro. Hein. J'ai fait des investigations extraordinaires dans les bottins, dans les archives, auprès des spécialistes de Flaubert, pour connaître l'explication, l'une qui est l'adresse de la maréchale Rosanette, personnage extraordinaire, maîtresse de Frédéric, qui était rue de Laval à l'époque, qui s'appelle maintenant la rue Victor Massé. J'ai vraiment scruté les bottins, le Didot Bottin, la Bibliothèque nationale, qui est formidable pour l'imagination, affrontant tous les noms, etc. Donc j'ai ouvert des pistes. Pourquoi il avait choisi précisément, je crois que c'est le 24, rue de Laval, le nom de tous les personnages, je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais je n'ai pas eu l'explication définitive de cette adresse-là. Alors j'ai bien des hypothèses, une supposition, et je pense qu'un jour j'arriverai peut-être à le prouver. Flaubert venait secrètement à Paris, sans prévenir ses meilleurs amis, hein, quand il venait à Paris, il venait deux, trois jours avant, pour retrouver le grand amour de sa vie, Juliette Herbert, qui a été la gouvernante anglaise de sa nièce. Et on sait que c'est une histoire d'amour véritablement forte qui a duré des années et des années comme ça, et qui est, on sait par des indices, qu'il a tenue secrète. Je suis convaincu que c'est une de ses adresses amoureuses qu'il a mis à l'intérieur de son roman, et qui n'est évidemment destinée qu'à Juliette, qui est la personne qui est susceptible de comprendre. Il y a d'autres romans dans lesquels il y a ça, des petits secrets, on va dire, biographiques, des petits secrets amoureux. Des livres, je crois qu'un auteur peut écrire toujours en adressant son livre à quelqu'un, souvent à des amours, c'est le cas, on parle de Flaubert, mais bien d'autres, ou bien à des morts.
Et d'ailleurs, vous écrivez, parce que ce qui est un peu comme Modiano, vous faites, mais c'est différent. C'est-à-dire que vous mêlez votre histoire de lecteur, d'écrivain, et vous parlez à un moment donné donc de votre adresse d'enfance, de vos parents aussi, et de la fameux répondeur, la voix qu'on entend, la cassette au téléphone. Quand quelqu'un n'est plus, on va appeler, et on entend la voix qui est sur le répondeur. Et c'est très beau parce que c'est quand on est dans une démarche, quelqu'un vient de partir d'un départ et il reste cette voix. Et écrire pour vous, justement, n'est-ce pas aussi rechercher ces voix, non pas qui ne sont pas sur le répondeur, mais dans notre mémoire. Et ces voix, elles tiennent à rien du tout. Elles tiennent à des adresses, à mettre nos pas dans les pas de la personne qui n'est plus. Enfin, on sent ça dans votre livre, Didier Blonde. C'est pour ça que c'est pas simplement un carnet d'adresses. C'est un livre accompagnateur. C'est un fil rouge.
Oui, vous avez raison, je m'intéresse aussi, enfin, tous mes livres sont des enquêtes sur des disparus, quoi. Voilà, sur des fantômes, on va dire. Tout ce qui réunit tous mes livres, c'est des fantômes. Alors, on a des fantômes très proches, la famille, les parents, les amis, déjà disparus, qui nous visitent, qu'on va visiter en rêve, en dédoublant la réalité. Il y a les fantômes qui sont des personnages de romans avec qui je vis dans une grande familiarité depuis longtemps. Enfin, tout cet univers, à dire invisible ou parfois trop présent. Enfin, et donc, c'est pour ça que je raconte, notamment dans cette préface, au fond, en mêlant les deux, puisque je pars d'une adresse qui est un domicile personnel, on l'a dit, la rue Charles Lafitte, au départ, qui est l'origine, avec Arsène Lupin, pour arriver jusqu'à la fin, à travers un parcours, retour à cette adresse de départ, qui était l'adresse, moi, de l'appartement familial de mes parents, voilà, donc, qui sont morts maintenant depuis longtemps, mais on sait que les lieux contiennent cette mémoire encore, et je racontais cette anecdote tout à fait à la fin, effectivement, où la cassette du répondeur téléphonique était restée branchée. J'ai eu, en faisant ce numéro, le numéro de téléphone, c'est des numéros magiques aussi, tout à coup, à l'oreille, la voix de ma mère, qui était comme une voix fantomatique encore, qui venait de ces lieux. Oui.
Vous écrivez, je suis retournée au 67 rue Charles Lafitte, j'ai débranché le téléphone et retiré la cassette sur laquelle elle n'en finit pas d'appeler. Cette voix, je cherche à le recouvrir depuis toutes ces années, en retrouvant en moi celle muette d'une enfance, d'un sourire.
Oui, oui, oui. Alors, on dit qu'on... Vous savez, la mémoire des voix, c'est difficile, c'est pas comme plus évanescent qu'un visage, on a tendance à oublier les voix, mais je crois qu'elle... Non, il y a des... Je peux retrouver des intonations comme ça. Ma passion du cinéma muet, sur lequel j'ai beaucoup écrit, vient précisément de ça aussi. C'est que c'est muet, il n'y a pas apparemment les voix, et pourtant, quand on assiste à une projection d'un film muet, quand on sort, on a vraiment l'impression d'avoir entendu parler les personnages. Il y a des voix qui viennent, on les fait parler, on est une sorte de ventriloque, mais je suis très très sensible aux voix absentes du cinéma muet, par exemple, aux voix des disparus, et je suis très très sensible aux voix de la radio. Je trouve que la radio, pour cela, a un pouvoir énorme, bien plus fort que l'image. Entendre des voix, c'est le soir, des émissions, ou, enfin, la journée, ça crée tout un univers et on projette des choses. C'est pour ça que c'est toujours très troublant de rencontrer une personne dont on a commencé par entendre la voix uniquement. Ah. Les deux se dédoublent complètement et donc il faut arriver à aller faire coïncider, et c'est pas simple.
Merci à vous, Didier Blonde.
Merci à vous.
Merci à vous pour Carnet d'adresse et puis pour cette voix, ces voix que vous nous faites entendre avec la voix VOX et la voix VOIE qu'on parcourt grâce à vous, grâce à Carnet d'adresse. C'est un récit. Ça vient de paraître aux éditions Gallimard. Carnet d'adresse, le titre exact, c'est Carnet d'adresse de quelques personnages fictifs de la littérature. Ça vient de paraître aux éditions Gallimard et c'est signé Didier Blonde. Merci à vous, Didier Blonde.
Merci à vous encore.